Pourquoi chez les religieux, il y a différents tampons cachers, et il y en a que les hyper religieux ne mangent pas, et d'autres qui sont plus modérés, ils mangent, on ne s'en sort plus. Ou c'est cacher, ou c'est pas cacher. T'as cacher Beddin, t'as cacher rabbin machin, rabbin un tel, tout ça, moi je mange pas ci, moi je mange ça, t'as le tampon. Alors je comprends pas, ou c'est cacher, c'est pas cacher, je comprends pas, le rabbin qui a donné son truc cacher là, et c'est un magouilleur, c'est un type malhonnête, s'il a mis son tampon cacher, t'as le nom du rabbin Dayan de la ville de un tel, il a mis son tampon, c'est cacher. D'autres disent non, moi je mange pas ça. Quoi, il est malhonnête ce rabbin? Non, il est honnête, alors pourquoi c'est pas cacher? Je mange pas. On doit expliquer cela. La réponse est extrêmement simple. En aucun cas et jamais, il y a un canular, d'accord ? Les gens croient que lorsque c'est marqué cachère, ça veut dire que ce qu'il y a dedans, c'est cachère. C'est faux, c'est archi faux. Bien que c'est marqué « Nous garantissons la validité cachère de l'aliment qui est dans ce paquet », c'est un canular, c'est un mensonge. Quand c'est marqué cachère, ça veut dire « Il y a une surveillance ». Il y a une surveillance. Mais qui peut maintenant jurer au nom de Dieu que ce qu'il y a dans le paquet, c'est cachère? Qui? Pour ça, il faut être le type lui-même qui a fait l'aliment et qui s'y connaît. Il faudrait que pour chaque employé dans chaque usine, tu aies un rabbin qui soit derrière 24 heures sur 24. Même qu'il n'y a pas les employés, qu'il n'y a pas un autre qui vienne la nuit, comme ça en douce, et il vienne mettre un peu de... Ça veut dire que pour qu'un produit soit bien vendu, il faut qu'il y ait dedans des produits colorants, des parfums qui sont produits à partir de toutes sortes de choses. Une partie est cachère, une partie n'est pas cachère. Je raconte une histoire authentique. C'était l'oncle de Mon Ravouta, c'est mon partenaire d'études pendant quelques temps. Son oncle a une usine d'alimentation. Et il voulait faire un sirop. Alors, tu vas voir un ingénieur alimentaire, tu lui dis, voilà, pour les sirops, pour toi, faire ton sirop, tu prends ces produits-là, tac, 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 tac. Cet oncle est religieux modéré, pas un grand religieux, modéré. Bon, il voulait faire un sirop qui soit cacher. Alors, tu es allé au Badatz. Badatz, c'est le Bedin Sedek, l'Aïda Haredi, c'est le cacher le plus grand, plus solide qu'il y a peut-être ici en Israël. J'ai pas de royal aussi, mais c'est connu qu'ils sont très bons. Et ils ont dit, écoutez, tout va très bien, mais ce colorant-là, ce parfum, c'est pas bon. Nous, on n'accepte pas ce genre, c'est fait avec des produits non cachers à la base, qui ont été, travaillés chimiquement, mais c'est pas cachère. Il revient avec la liste des éléments moins l'élément interdit, voire l'ingénieur alimentaire, qui lui dit, écoute, tu fais ton sirop sans ce que je te dis là, ce produit-là, ça ne s'en va pas, c'est pas très bon. Il dit, moi je veux que ce soit cachère, pas de problème. Tu fais comme j'ai dit déjà beaucoup de gens. La première fois, tu vas prendre le produit, il te donnait un produit de remplacement qui était cachère, il n'est pas aussi bon. Tu prends ce produit de remplacement, tu gardes les tonneaux, et après, quand tu vas... Pour mieux vendre ton sirop, tu vas acheter le produit non cachère que moi je t'ai conseillé, et en douce tu le mets dans les tonneaux du produit que eux t'ont dit, et ils y verront que du feu. Donc l'ingénieur alimentaire a donné le truc à l'oncle, comment rouler les gardiens du Badatz. Heureusement que l'oncle était honnête, lui a dit, écoute, moi je veux pas être malhonnête, tu fais ce que tu veux. Ça veut dire que la magouille, non seulement elle est possible, mais elle existe. Personne ne se leurre, pas tout le monde est honnête. Les gens cherchent à faire de l'argent. Il y a un marché, surtout en Israël, de produits cachers qui fonctionnent bien. Pour recevoir un tampon cachère qui a de la valeur, on sait qu'on a un grand marché, on est prêt à faire n'importe quoi. Donc c'est pas compliqué d'annoncer que c'est cachère alors que ça ne l'est pas. Alors pourquoi nous, ce que nous prenons un bon hercher, un bon tampon cachère, on veut limiter la casse? La différence entre un cachère qui est moyen et un cachère qui est meilleur, la surveillance elle est plus élevée. Il y a une plus grande surveillance. On n'est jamais certain qu'on mange cachère. Rabbi Shimon ben Shaul Zatzal, un des grands de la Torah décédé il y a quelques années, il a dit, il y a 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il faut manger 100 tampons cachères. 100 tampons cachères? Oui. Ne pas compter sur le tampon cachère. Tu manges que des choses que tu es certain, c'est fait chez toi à la maison. Des tomates, toi-même tu les as plantées ici en Israël, parce qu'une tomate, il faut faire quelques prélèvements, c'est pas aussi simple, tu fais prélèvement toi-même, tu comptes sur personne ou tu refais toi-même. Le lait, tu vas le traire. La viande, tu l'égorges. Bon, je sais pas qui peut faire une chose pareille, d'accord? Faut déjà un grand chacham pour savoir comment faire déjà pour pas se tromper au niveau de la cachoute et avoir les moyens de le faire. Lui conseiller pendant les 10 jours de tchouva, les 10 jours de pénitence, on est censé manger hyper cachère, même le pain de non-juif qui est autorisé durant toute l'année, durant ces 10 jours de pénitence, on l'interdit. La seule différence qu'il y a au niveau de la halakha sèche entre les 10 jours de pénitence, entre Shana et Kippour et le reste de l'année, c'est que pas de palter, ça veut dire le pain de boulanger non-juif qui est autorisé à la... Si on n'a pas de pain juif, moi je chez soi, dans la ville, il n'y en a pas, on a le droit de manger du pain de non-juif. C'est autorisé. À part les jours de pénitence. C'est la seule différence qu'il y a. Donc on voit qu'il y a un accent spécial sur la cache-route durant ces 10 jours. Alors Ben Sion disait, on ne compte pas sur le tampon cachère. Tu manges son cachère. Pourquoi? Parce qu'en aucun cas, un tampon cachère ne signifie que c'est cachère. On ne peut jamais savoir. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire. On veut limiter la casse. Je sais que maintenant, ce Hercher-là, ils sont sérieux. Ils ne vont pas comme d'autres Herschers. Il y a un Hercher, il y a une usine en Suède. Une fois par année, le rabbin vient à l'improviste. Bon. Mais durant toute l'année, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En gros. Il y en a d'autres où, une fois par jour, le rabbin, il vient à l'improviste. Et il cadenasse, il vérifie. C'est beaucoup plus dur de magouiller. Magouiller, on peut toujours. Tous ceux qui ont eu un jour une usine alimentaire ou un restaurant, ils savent qu'on peut faire ce qu'on veut. Simplement, lorsque tu as une garde, est-ce que aussi eux vont vérifier à quel point tu es un type sérieux, honnête, ils regardent un peu à qui on a affaire, alors ça devient plus dur de magouiller, et nous, on espère que on mange un peu moins non cachère. C'est à peu près comme ça. C'est là pourquoi il y a une différence entre plus cachère et moins cachère. Oui.
Est-ce qu'on a le droit, au nom d'une volonté de manger cachère, de se ruiner comme en France, c'est le cas? C'est beaucoup plus facile de manger cachère avec un bon cachère en Israël qu'à Paris. Le moindre fromage, c'est 2-3 fois plus cher à Paris. Alors, soit on se prime, soit on se ruine.
Je dirais, mais il faut se priver. Mais qu'est-ce que tu penses comme autre option? De manger à moitié cachère? Certainement pas. La cacheroute, c'est très important. Pourquoi c'est important? Si quelqu'un fait un péché de façon involontaire. C'est pas que c'est interdit. Je sais pas, moi... Et alors c'est Shabbat, sans faire exprès, sur une fourmi. Bon, pas le droit de tuer des fourmis Shabbat. Bah, il n'a pas fait exprès, il a marché sur une fourmi. Ok, bon. Quelqu'un, il a fait, je sais pas quel avéra, il a fait... Pardon ? Tu peux marcher, non, c'est pas bien d'aller chercher les fourmis pour marcher dessus. Mais si, par inadvertance, t'as tué une fourmi, c'est pas la fin des haricots. D'accord? C'est marqué, si ça te dérange, tu as le droit. Le Shabbat, tu n'as pas le droit. Maintenant, tu n'as pas fait attention, c'est arrivé. Ok, je n'ai pas fait attention. Quelqu'un, je ne sais pas, il a mis cette filine. Après, il s'avère, un beau jour, la filine n'était pas cachère. Ok, c'est pas bien. Mais d'un côté, tu peux dire, j'étais innocent. Innocent, c'est certain que c'est beaucoup, par inadvertance, de façon involontaire, c'est arrivé. Donc, c'est certain que tu n'as pas mis les filines quelque part, même que c'est de façon involontaire, tu ne les as quand même pas mis. Mais c'est beaucoup moins grave que si, de façon volontaire, tu ne les as pas mis. Au niveau de la cacheroute, c'est certain que quelqu'un maintenant qui mange une chose qui n'est pas cachère, alors s'il fait de façon volontaire, il y aura ici deux dégâts. Un premier dégât qu'il transgresse la parole de Dieu. Deuxième dégât, que l'aliment en lui-même, il est impur. Et alors, je rappelle, on a fait un cours sur la cacheroute, il est déjà sur Internet. Mais en aucun cas, la cacheroute est une raison, est motivée par des raisons de santé. L'hygiène alimentaire, c'est de la médecine. Dieu m'a dit dans la Torah, « Mishmartem me'od nafotechem » Vous garderez, ferez très attention de garder en santé votre corps. En cela se trouve toute l'hygiène alimentaire, la médecine paramédicale, la kinésiologie, le code de la route, tout ce qui concerne de « je dois garder mon corps en bonne santé ». Donc, y compris aussi faire attention à ce que je mange. La cacheroute n'est nullement et absolument pas motivée pour des raisons de santé. C'est un canular faux. J'ai expliqué ça longuement dans le cours sur la cacheroute qui est déjà sur Internet. Mais qu'est-ce qui motive la cacheroute? Nous prétendons que chaque chose sur Terre a son côté matériel, qu'aujourd'hui la physique a démontré que, à part la chose physique que tu vois, il y a aussi une partie qui est métaphysique. Comme la physique elle a démontré cela, elle a dit qu'on sait bien aujourd'hui que même la matière n'est pas matière, c'est de l'énergie. En grande partie, c'est de l'énergie. Un être humain, il est composé d'une partie matérielle que si je la réduis, hein, c'est quoi? Ce sont les noyaux des atomes plus les électrons. Je prends tous les noyaux d'un être humain, je les mets ensemble avec les électrons, c'est invisible à l'œil nu. Plus le vide qu'il y a entre les noyaux et les électrons, ça fait un vide énorme. Donc ça fait zéro, c'est aussi invisible. Je prends la partie matérielle qui est invisible, plus la partie invisible, le zéro, le vide qui est invisible aussi, ça fait zéro plus zéro égale l'être humain. Donc nous sommes des êtres invisibles, visibles. Nous sommes une illusion de plus. Ah, je touche. Alors j'ai expliqué 40 000 fois ici. C'est notre champ électromagnétique de la main, parce que les électrons, en tournant très vite, forment un champ électromagnétique qui heurte le champ électromagnétique de la table. Et je la vois, c'est parce que les photons, les particules de lumière qui sont envoyées par le néon, par le soleil, rebondissent sur le champ électromagnétique de la table et touchent ma rétine. Mais c'est de l'illusion. Tout ça, c'est de l'énergie. Donc nous comprenons la physique, nous dit maintenant, sache, à part la partie que tu vois être matérielle qui est illusion, il y a aussi une partie qui est énergique. E égale MC2. Alors tu prends maintenant une partie de matière, tu en sors l'énergie, c'est 300 000. Hein, tu prends la masse, tu prends 1 mg fois 300 000 au carré, ça fait une bombe atomique, c'est terrible, d'énergie. Donc la matière, c'est de l'énergie. Il y a de l'énergie, dit la Torah, positive, énergie négative. Le bien et le mal. La kedusha, ça s'appelle le sitra achra, l'autre côté, le côté du mal. Les aliments impurs ont un pourcentage extrêmement haut, extrêmement grand de parties de charges spirituelles négatives. Et quand je l'ingurgite, c'est marqué dans la Torah, venitme tembam, vous vous impurifiez. C'est marqué sans la lettre Aleph, dit Chazal, tu lis venitam tembam, vous deviendrez idiot, ça bouche l'esprit. Ça bouche l'esprit à quoi? On a dans notre esprit une neshama en nous qui est un appel extraordinairement fort vers Dieu, vers la vérité, vers l'authenticité. Pourquoi je vis? Quel est le sens de ma vie? Où est-ce que je peux être vraiment de façon authentique que dans l'éternité, ce qui va rester? D'un autre côté, je suis attiré aussi par ce monde-ci. Ce que je vois, je crois, le reste, je ne sais pas. Quand je prends des aliments impurs, ça m'ôte, ça me rend nitmetem, ça veut dire bouché. Je bouche ma sensibilité à la vérité, à ce qui est authentique. Je développe une pulsion d'attirance vers le monde que je vois. Ce que nous disons en très résumé, je deviens animal. Animal. Quand tu manges non cachère, ça va toucher ton esprit, pas ton corps. Au contraire, ton corps, il est très bien. Le Talmud de Rouchalmi, il dit pas que le porc n'est pas bon, il est très bon. Mais Dieu interdit. Pas pour des raisons de santé. Il l'interdit parce que c'est mauvais pour ton âme. Mais tu mets tes
bas. Ça va au-delà de la faute.
Pardon ?
Ça va au-delà de la faute.
C'est exactement ce que j'ai dit. Quand tu manges maintenant une chose qui est impure, tu fais deux choses. D'abord, tu transgresses la parole de Dieu. Deuxièmement, tu fais un dégât. Parce que ce dégât, il est là en toi. Donc si tu as mangé involontairement, alors c'est vrai, ça on t'enlève, t'as pas fait ça exprès. Mais le dégât, tu as mangé maintenant un demi-kilo, une escalope, fantastique. Après on t'a dit, escalope n'était pas cachère. Tu tapes la tête dans les murs. Parce que c'est vrai que t'as pas fait exprès, alors Dieu te dit, c'est pardon. Mais la partie négative, elle est là. Elle irradie en mal.
Je pense qu'on ne peut pas décharger la responsabilité sur celui qui a mis caché, en fait.
Exactement.
On peut décharger la faute, mais pas...
Exactement. Alors moi, maintenant, je vais faire attention à mon âme. Donc, je vais faire très attention à manger cachère. Parce que c'est la faute du rabbin. D'abord, le rabbin n'a jamais dit que c'était cachère. Il lui a dit, même quand il dit, je vous dis maintenant, mais ils ont dit que c'est cachère, il pète. Il compte sur ta logique. T'es un homme intelligent. Tu sais bien qu'on ne peut pas vérifier complètement. Alors quoi? T'assois sur la tête du rabbin. Alors, écoute, je vérifie. Shulchan Aruch, il a dit, la loi juive dit, si maintenant la personne qui cuisine, elle a peur qu'on vienne vérifier s'il a mis oui ou non des choses cachères, on peut compter que c'est cachère. Parce qu'il a peur.
De quel droit il met le tampon alors?
Hein? Parce que Shulchan Aruch a dit, la Torah a dit, qu'on sait très bien qu'on ne peut pas vérifier tout toujours partout. Si nous savons que celui dans une cuisine maintenant, si on sait que le cuistot ou le responsable, il a peur qu'on vienne vérifier et qu'on va lui dire sur lui un nom qui n'est pas cachère, alors c'est suffisant. Ça suffit.
Le juif qui mange une cache moins bonne, et l'autre qui mange une bonne cacheroute, les deux mangent cachère finalement.
Non, personne ne mange cachère. Il y en a un qui mange moins non cachère que l'autre. Okay, on espère.
Les deux, vis-à-vis de Dieu, ils sont qui?
Non, justement pas. Parce que les deux, par rapport à Dieu, c'est vrai, moi j'ai compté sur ces cachères, c'est marqué cachère. Dieu, ok, c'est bon, tu es. Je te lave, c'est vrai, c'est pas ta ref, c'est pas de ta faute. T'as mangé une escalope qui n'était pas cachère, mon vieux. Mais c'est pas de ta faute. Okay. Mais l'escalope, elle a fait des dégâts. Elle t'a esquinté. Je vais prendre un exemple. Tu invites chez toi à la maison, je sais pas moi, un copain à toi. Et toi, tu aimes bien les vases asiatiques. Tu as ramené chez toi à la maison dernièrement un vase Ming, datant d'il y a 1000 ans. Vaut une fortune, $20,000 le vase Ming. Tout d'un coup, tu commences à t'énerver avec une petite bagarre, altercation avec ton copain. Comme ça, tu me dis, tu lui as dit espèce d'enflé. Tu me dis espèce d'enflé à moi. Il prend le vase Ming, boum. Le vase Ming par terre en petits morceaux. Tu vas le casser. C'est mon vase Ming, $20,000. $20,000, ce vase $20,000. Je m'excuse. Je t'en supplie, et pardonne-moi, il se met à pleurer. Je m'excuse, je ne savais pas. Bon, tu l'excuses. Alors il s'en va. Eh oh, je t'ai excusé, mais le vase Ming, il est cassé. Quelqu'un va maintenant, il fait une avéra. Il fait deux choses dans la avéra. Un, il va contre la volonté de Dieu. Il prend Dieu, moi j'en ai rien à faire de toi, je prends le vase Ming, tac, je casse. Après il fait tchouva, il dit je regrette, je fais tchouva, pardonne-moi, Dieu pardonne. Mais le vase Ming, il est cassé, l'escalope, elle est dedans. Autre cas, t'invites ton copain, tu vas chez toi à la maison, et lui sans faire exprès, il se prend le pied dans le coin de la table, et boum, il tombe sur le vase Ming. Elle a dit, désolé, il n'a pas fait exprès, désolé, ok. Tu ne peux pas lui en vouloir. Le vase Ming, il est cassé. Ça, c'est le cas, le type qui a mangé maintenant avec un tampon cachère, c'était pas cachère. Tu ne peux pas lui en vouloir. Mais les dégâts ont été faits. Il a avalé l'escalope non cachère. Donc, quelque part de maintenant, il s'est bouché son âme. Que si plein maintenant, il veut sentir Dieu, il veut que sa prière soit reçue. Recevoir la prière, c'est quoi? C'est que la relation, elle est pure, elle passe, il y a une émission qui est claire. Toute l'émission maintenant, le message sur Internet, il y a des images, il y a des trucs, c'est bousillé, ça marche pas bien. Vas-y, ça prend 7 ans pour que toutes les cellules du corps soient changées. 7 ans pour éliminer les dégâts du non-cachard qu'on a mangé. 7 ans! 7 ans, il galère. Ouais, c'est vrai, mais ça marche ensemble. Quand je parle de corps, je parle d'âme. Dans le corps, tu as chaque chose corporelle, elle a une charge spirituelle qui va avec.
Alors, j'ai confiance, alors.
Hein? Alors, on a confiance en personne. Je te dis que les 10 jours...
Je suis un végétarien, et voilà.
La déchouvane, elle nettoie pas? Pourquoi c'est pas la
déchouvane? Elle nettoie la tchouva. Elle nettoie la tchouva, c'est vrai. La tchouva, elle nettoie. Mais tu rames. Pourquoi ramer? Attends, je réponds à ce qu'il a dit, David. Excuse-moi. Alors, répète ta question, j'ai oublié en attendant.
Si je peux plus avoir confiance.
Voilà, alors je t'ai dit, les 10 jours de pénitence.
Oui, j'ai confiance.
À un moment, tu fais tout toi-même. Le reste de l'année. Tu ne veux pas commencer à aller amener une chèvre à la maison, la traire, et planter tes radis. Et... Si possible, il y a un rabbin.
Non, pas si possible.
Il y a un rabbin, Abnei Berak, un grand homme, le rabbin Gedalia Nadel, il fait tout lui-même. Bon, ce qu'il faut. nous on peut pas.
Oui, tout le monde doit faire comme ça.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors écoute, c'est pas faisable. Ça, tu parles dans le monde idéaliste qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de compter sur les gens. Mais vu qu'on compte pas sur les gens, alors on va mettre derrière eux des gardiens. Maintenant, tu as des boîtes de garde, ça s'appelle les rabbins qui donnent la cache-route. Ce sont des boîtes de gardiens, des gardiens barbus avec chapeau. Maintenant, il y en a qui ont une armée de gardes sérieux, qui connaissent bien la halakha, qui connaissent les magouilles, qui ont dans un général alimentaire, qui ont toutes les combines des combines et qui vont vérifier sans cesse. La vraie, le FBI. Putain, c'est les flics, je sais pas moi, sénégaliens, rien contre sénégalien, d'accord. Cool, voilà, une fois par année, il vient, tout va bien, allez, on lui donne un pot, il boit son pot, alors c'est bien, je te donne. Ouais. Ok. Il y a une différence entre t'as une cache-route qui est hyper sérieuse, une qui est un peu moins, encore moins, encore moins, et encore moins. Il y a une qui n'ose même pas manger. Moi, j'ai connu des rabbins, que c'était moins grave de manger sans le recher qu'avec le recher. Ils faisaient les prélèvements aussi en Israël. Alors, si tu sais pas faire le prélèvement, tu manges du tevel. C'est pas bien. Mais c'est pas que tu sais pas faire le prélèvement, tu fais pire. Tu mets dedans de la trouma que tu mélanges avec du maaser sheni, tu fais des trucs dedans terribles quand on sait pas faire les choses comme il faut. Donc, il faut aussi que les types ils soient un connaisseur. Il faut qu'ils soient un connaisseur, qu'il ait du métier, de la bouteille, connaître un peu les magouilles, qu'ils soient sérieux, qu'ils soient honnêtes. Maintenant, on compte sur personne. C'est vrai, on peut compter sur personne à 100%. On limite la casse. Vu que nous voulons faire attention à notre âme, pour rester des personnes qui sont des personnes droites, des personnes authentiques, des personnes, des gens bien, des bnei Adam, des fils d'Adam, des gens bien, la cache-route, elle a un impact direct sur notre âme. Direct. Donc nous faisons attention de manger des cache-routes qui sont hyper, hyper sévères. Le plus possible, ce qui est possible. Et malgré tout, il y a des magouilles, c'est certain. Ouais. On le sait bien. Alors on limite la casse, on sait qu'il y a 1% qui passe.
Ça ne fait pas de ne pas manger cachère, ça mange avec un R-chef du Belgique de Paris.
C'est juste, personne au monde peut dire c'est un ref. Mais personne au monde peut dire c'est cachère. On dit, ça limite la casse. Combien? Ok. Donc qu'est-ce que nous conseillerons à chacun? Écoute, dans la mesure où tu t'aimes bien toi-même, et tout le monde s'aime bien, essaie de limiter le maximum la casse, c'est tout. Je ne peux pas dire à quelqu'un maintenant, dépense plus d'argent pour manger plus cachère, chacun avec l'amour qu'il a de lui-même. Ce qui est oui intéressant, c'est que pour son fauteuil au salon, ou sa télévision couleur, dernier modèle, ou la bagnole machin, là il est prêt à payer. Il y a un exemple qu'on donne. Un jour il y avait un bateau qui est en train de... Le bateau il était en mer, et puis il y avait une grande tempête, et il fallait lâcher du lest. Alors, on dit aux tous les passagers, maintenant commencez à jeter ce qui est inutile. Alors il ouvre sa valise, okay. Il voit les tuilines. À quoi ça sert les tuilines? Hein? C'est lourd un peu. Allez, hop! Il y en a un qui va lâcher en dernier les tuilines, il y en a un qui va lâcher en premier les tuilines. Tout dépend qui tu es. Donc tu me donnes maintenant deux solutions. Ou bien se ruiner, ou manger hyper cachère. Il y a une troisième solution. Peut-être ne pas manger le fromage de chèvre. Je comprends que c'est difficile. Comme ça, il n'a pas les moyens. S'il a les moyens, mange tout ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas les moyens. Est-ce qu'il doit maintenant manger un fromage qui a une cache-route qui est comme ça? Je ne peux pas lui dire que non. Je ne peux pas te dire non, ne mange pas. C'est pas cachère. Je peux lui dire, écoute, c'est une cache-route qui n'est pas des meilleures. Donc il y a plus de chances que ce ne soit pas cachère. Donc tu te bousilles. Tu te bousilles, un temps soit peu. Il y a des chances que tu te bousilles. C'est tout.
Ça date de quoi, cette histoire de gardiens?
De tout temps. Déjà, le Shulchan Aruch, il y a 500 ans, il en parle. On parle, bien sûr.
Il y avait déjà des gardiens.
Oui, bien sûr.
Chacun pour soi.
Non. Il y avait dans les villages, non. Le Shouchet, l'agriculteur.
Voilà, voilà, absolument.
Lui-même était Tamil Chacham.
Ouais. Quelqu'un qui vend maintenant. Il vient au marché. Il vend de la viande. Il vend des fruits. Est-ce qu'on peut faire confiance? Les prélèvements ont été faits comme il faut. C'est pas des fruits de Shvit à l'époque quand ils sont en Israël. Aujourd'hui encore, une fois tous les 7 ans, tous les fruits sont interdits. Il y a un problème de Shvit. Donc c'est pas marqué sur le fruit qu'il y a des Shvit. On ne sait pas. Donc il y a toutes des lois, comment on fait pour vérifier qui, quoi, comment.
À Marseille maintenant, il y a le Dayan qui a décidé de livrer la Teuda au restaurant dont le propriétaire chômage Shabbat.
Très juste.
Le chômage, il sert à quoi alors?
On sait très bien. Un chômeur, il a besoin d'avoir sa paye à la fin du mois. Et lorsque le patron de la boîte lui dit ou bien tu fermes les yeux, il n'est pas comme ça aussi clairement, mais écoute, c'est comme ça. Très souvent, le chômeur, il a peur pour sa paye et pour sa place, et il ferme les yeux. Ou bien, ça c'est une solution, ou bien, tout simplement, comme ça fait très souvent, quand un propriétaire qui n'est pas, il vient la nuit, quand personne ne voit, il n'y a pas de chômeur, et combien de fois on a attrapé des boucheries comme ça? Des boucheries, le type à 4h du matin, il venait, il ouvrait, il a mis de la marchandise, taref, la viande d'âne. Et après, il vend. L'argent. Et même quand il y a le chômeur Shabbat, on est certain que ça va. C'est limité la casse, encore une fois. On espère que, vu qu'il y a le chômeur Shabbat, donc il y a déjà un petit zeste d'amour de Torah et de conscience. Mais ça ne veut rien dire. C'est un peu plus. Encore une fois, tu as des grands rabbins avec des grands chapeaux, des grandes barbes qui sont des criminels. Ça existe aussi, hélas. Sinon, on ne serait pas. C'est facile d'accuser les non-religieux. Mais tous les non-religieux, ils viennent d'arrière-grands-parents religieux. Hein? Et si un bout de jour ils sont venus religieux, donc au bout d'un moment c'est quelque chose qui allait mal. Donc ça veut dire, le monde religieux il est aussi fautif. Preuve en est qu'il a produit des gens non religieux. Il y a bien une source. Le mal il vient de chez nous. Ça fait 4000 ans qu'on existe, 3500 ans. Si on était tous des gens honnêtes, le monde religieux serait tous honnêtes et non religieux aussi, ma chère serait là. Mais on peut pas dire, c'est vous non religieux fautifs et nous on est bien. Ça existe aussi dans le monde religieux. Donc on a confiance en personne. Ce qu'on fait, on essaye de vérifier au maximum qu'on peut. Qu'on peut. C'est pour cela aussi qu'une cache-route valable, elle coûte plus cher. Parce qu'avoir une armée de gardiens coûte plus cher qu'avoir un gardien. C'est normal. Un bon gardien, il sait que les bons gardiens, il veut plus d'argent. C'est normal. L'armada ici, le Bagdad, c'est l'armada d'ingénieurs alimentaires qu'ils ont besoin. Donc des gens qui ont fait des années d'études en chimie agroalimentaire, etc. C'est des études. Il faut être au courant de tout ce qu'ils font, tout ce qui se fait dans le monde sans cesse. Chaque produit, avec quoi on peut faire, comment c'est fait, les apports, qui, quoi, comment. C'est très compliqué. C'est une vraie infrastructure logistique pour pouvoir amener un truc et dire qu'il est cachère. Il y avait une question.
Vous avez dit que, par rapport à ce que vous avez dit, donc on mangeait jamais à 100% cachère.
Que si tu es certain que tu le fais toi-même. Si toi, tu peux maintenant jurer, tu peux prouver, tu sais. Alors, j'ai confiance. Toi, moi, j'ai confiance en moi.
D'accord. Donc, c'est-à-dire en achetant, je ne peux pas manger 100% cachère.
C'est certain.
Comme vous dites, ça, quoi qu'il arrive, ça nous bouchera la chaîne. Donc, quoi qu'il arrive, ça mettrait à égalité toute cache-route.
Non, il y a une différence entre une chance sur 1000 que ce soit non cachère, ou une chance sur 10 000, et une chance sur 10. Maintenant, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est comme ça. Non seulement l'aliment en lui-même est interdit, mais le goût de l'aliment. Si maintenant j'ai cuit un morceau de porc dans de la soupe, j'enlève le morceau de porc, la soupe est interdite. Pourquoi? Parce que le porc, en cuisant, il a laissé passer des effluves de goût, ce qu'on appelle, et ce goût se trouve dans la soupe, et quand je mange la soupe, je sens du goût de porc. Cette soupe est interdite par la Torah. Bien qu'il n'y ait pas de porc, et que du goût. Plus que cela, lorsque je cuis maintenant un aliment, de l'eau maintenant, dans une casserole dans laquelle j'ai cuit auparavant du porc. C'est la nature des ustensiles, ils absorbent dans leurs parois du goût, de l'arôme de l'aliment qui était cuisiné. Et après, quand tu cuis de l'eau, tu nettoies bien ta casserole, même au lave-vaisselle. Après, tu prends de l'eau, il y a des parties, infinitésimales, mais il y en a, du goût de l'aliment qu'il y avait auparavant, qui sont réinjectés dans l'eau. Cette eau est interdite. C'est pour cela que nous devons manger des plats qui ont été cuisinés dans des plaques, dans des casseroles qui sont cachères.
Si c'est infinitésimal, c'est évident.
C'est vrai. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure la casserole, elle réinjecte cette odeur-là, et on considère qu'elle a pris dans toute sa largeur, dans toute son épaisseur, il y a du goût. Je ne sais pas combien du goût a été pris et combien est rejeté. Je considère, vu que je ne sais pas, je prends le cas le plus grave qu'il pourrait y avoir, c'est comme si toute l'épaisseur de la, du matériau a été imbibée de goût et il est relâché. Donc si maintenant dans le liquide j'ai 60 fois plus que la casserole, ce qui est très rare, le liquide est permis.